Section 9. Les réprouvés. Il y a une œuvre à faire en faveur de beaucoup de gens auxquels il ne serait pas sage d'exposer la vérité, car ils seraient incapables de la comprendre. Mais vous pouvez les gagner par des actes de bienfaisance. Ce sont les proscrits, ceux qui ont perdu jusqu'à la notion de Dieu et qui doivent d'abord être nourris, soignés, vêtus décemment. Ils ne sont pas en état d'entendre parler du Christ, de son grand amour et de son désir de les sauver. Que ces âmes qui se perdent se rendent d'abord compte que votre conduite à leur égard est dictée par l'amour que vous ressentez pour elles. Le Seigneur se sert d'agents humains. Le divin et l'humain doivent s'unir, œuvrer ensemble pour restaurer en l'homme l'image morale de Dieu. Agissez intelligemment, avec persévérance. Ne vous découragez pas si vous ne rencontrez pas toute la sympathie et toute la coopération que vous attendez. Si vous travaillez sous le regard du Seigneur, soyez persuadé qu'il est toujours avec celui qui est humble et débonnaire. Mais vous avez besoin qu'il opère dans votre cœur et dans votre esprit, afin de savoir comment agir chrétiennement. Priez pour ceux que vous vous efforcez de secourir, qu'ils puissent se rendre compte que vous dépendez d'une puissance supérieure. C'est ainsi que vous gagnerez des âmes. Chapitre 31. Travaillez pour les proscrits. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Jude, versets 22-23. L'invitation évangélique s'adresse à toutes les classes. Le Christ a illustré les bénédictions spirituelles de l'Évangile par un festin, l'invitation au souper. Il fait ressortir la merveilleuse condescendance divine dans l'invitation du maître du festin pour tous ceux qui viendraient. L'appel spécial de l'Évangile, qui doit être proclamé près de la fin de l'histoire de la terre, est aussi mentionné. L'invitation, d'abord adressée à beaucoup de gens, fut rejetée. Alors le maître se tourna vers la classe la plus déshéritée, les pauvres, les paralytiques, les aveugles. Ceux-là n'étaient pas dominés par des projets ambitieux. Rien ne les empêchait d'accepter. Les serviteurs s'acquittèrent de leur mission et revinrent en disant « Maître, ce que tu as ordonné a été fait ». Et il y a encore de la place. Alors le maître dit à ses serviteurs, « Allez dans les chemins et le long des haies, et ceux que vous trouverez, les créatures les plus dépravées et les plus délaissées, contraignez-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Manuscrit 81, 1890. Contraignez-les d'entrer. C'est ainsi que parle le Christ. Pour obéir à ses paroles, nous devons aller vers les païens qui sont près de nous et vers ceux qui sont au loin. Il faut que les publicains et les femmes de mauvaise vie entendent l'invitation du Sauveur. Grâce à la bonté et à la constance de ses messagers, l'invitation devient une puissance contraignante pour relever tous ceux qui ont sombré dans l'abîme du péché. Le Christ désire vivement réformer le caractère. Quelle que soit la profondeur de l'abîme du péché qu'une créature est atteinte, nous ne devons pas la mépriser et passer près d'elle avec indifférence, mais considérer que le Christ est mort pour elle. Le Sauveur désire vivement réformer le caractère humain défiguré, restaurer chez l'homme l'image morale de Dieu. Tous sont précieux à ses yeux. Toute âme est l'objet de l'intérêt affectueux de celui qui donna sa vie afin de la ramener à Dieu. Cet amour persévérant de notre Père Céleste nous enseigne que les déshérités et les proscrits ne doivent pas être considérés avec indifférence. Ils appartiennent au Seigneur par droit de création et de rédemption. Si nous nous fions à notre propre jugement, nous serions portés à croire qu'un grand nombre de pécheurs notoires sont dans une condition morale désespérée. Mais le Seigneur voit les choses différemment. Bien que ces gens ne le recherchent pas, ils sont précieux à ses yeux. Celui à qui rien n'échappe sait comment toucher les esprits. S'ils sont pécheurs, ils peuvent se repentir, se convertir à la vérité. C'est là l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Ne pas demander s'ils sont dignes. Quand il entend l'appel des égarés, de ceux qui sont tentés et des malheureuses victimes de la misère et du péché, le chrétien ne se demande pas « Sont-ils dignes ?» mais plutôt « Comment puis-je leur être utile ?» Dans les hommes les plus dégradés, les plus souillés, il voit des êtres pour le salut, desquels Jésus est mort et pour lesquels il a confié à ses disciples le ministère de la réconciliation. Découvert par l'œuvre médicale missionnaire, il m'a été montré que l'œuvre médicale missionnaire découvrira, dans les profondeurs même de l'abîme de dégradation, des hommes qui, bien qu'ils se soient adonnés à l'intempérance et à des habitudes dissolues, seront gagnés par les efforts particuliers faits en leur faveur. mais il faut qu'on aille à leur recherche et qu'on les encourage. De fermes et patients efforts sont nécessaires pour les retirer de l'abîme dans lequel ils sont tombés. Ils ne peuvent en sortir eux-mêmes. Il se peut qu'ils entendent l'appel de Dieu, mais ils sont trop durs d'oreille pour en saisir la signification, et ils ont les yeux trop obscurcis pour discerner quelque bien en réserve pour eux. Ils sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Et cependant, même ceux-là ne sont pas exclus du festin de l'Évangile. Ils doivent entendre l'invitation qui les convie à entrer, bien qu'ils s'en rendent indignes. C'est à eux que le Seigneur pense quand il dit « Contrains-les d'entrer ». N'acceptez aucune excuse, mais gagnez-les par l'amour et la tendresse. Cette œuvre, convenablement dirigée, sauvera un grand nombre de pauvres pécheurs que les congrégations religieuses ont négligés. Cette œuvre de restauration demande de grands et douloureux efforts. Point n'est besoin de faire auprès des personnes des exposés saisissants de doctrines qui pourraient leur paraître étranges. Il faut plutôt leur faire part du message évangélique, tout en leur donnant les soins médicaux dont ils peuvent avoir besoin. Des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles ont besoin de connaître la grande portée de la loi de Dieu. Ce ne sont ni les privations, ni le travail, ni la pauvreté qui dégradent l'humanité, mais la transgression de la loi de Dieu. Tous les efforts faits pour sauver les proscrits, les perdus ne seront d'aucune utilité, à moins que les exigences de la loi de Dieu et le besoin de loyauté envers leur Créateur n'aient fait impression sur leurs esprits et sur leur cœur. Dieu n'a rien prescrit qui ne soit nécessaire pour relier à lui l'humanité. La loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. À la parole de tes lèvres, dit le psalmiste, je me tiens en garde contre la voix des violents. Psaume 19, versets 8 et 9, Psaume 17, verset 4. Les anges nous viennent en aide dans cette œuvre qui consiste à relever ceux qui sont tombés et à les ramener à celui qui a donné sa vie pour les racheter. Le Saint-Esprit coopère également avec les agents humains dans leur ministère en faveur du relèvement des forces morales, en s'adressant au cœur des hommes et en les convainquant de péché, de justice et de jugement. Travailler pour les intempérants. Il faut s'efforcer sérieusement de libérer ceux qui sont esclaves de mauvaises habitudes. Il n'est pas un endroit où il n'y ait quelque chose à faire pour les victimes de l'intempérance. Dans les églises, les institutions religieuses et même au sein des familles soi-disant chrétiennes, de nombreux jeunes s'engagent dans le chemin qui conduit à leur perte. Intempérants, ils se rendent malades. Pour se procurer l'argent nécessaire à la satisfaction de leur passion, ils n'hésitent pas à commettre des actes malhonnêtes. Ils ruinent ainsi leur santé et faussent leur caractère. Éloignés de Dieu, méprisés par la société, ces malheureux se rendent compte qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. Ils ont brisé le cœur de leurs parents. Les hommes estiment que leur cas est désespéré. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu les considère. Il connaît les circonstances qui les ont amenés là, et il a pitié d'eux. Ce sont de pauvres créatures qui ont besoin qu'on leur vienne en aide. Ne leur donnons pas l'occasion de dire « Personne ne s'occupe de moi ». Parmi les victimes de l'intempérance, il en est de toute classe et de toute profession. Des hommes éminents par leur talent ou leur savoir se sont conduits de telle manière qu'il leur a été impossible de résister à la tentation. D'aucuns qui étaient riches sont maintenant sans foyer et sans amis. Plongés dans la misère, la souffrance, la maladie et le déshonneur, ils ont perdu tout empire sur eux-mêmes. Si une main secourable ne leur est tendue, ils descendront toujours plus bas. Pour eux, la satisfaction de leur passion n'est pas seulement un péché, c'est une maladie. Une bataille maintes fois livrée, n'entreprenons aucune œuvre au hasard, par intermittence. Pour gagner des âmes sur le point de périr, on ne doit pas se borner à prier pour un buveur, parce qu'il pleure et confesse la souillure de son âme, et dire ensuite qu'il est sauvé. Il faut livrer maintes et maintes fois la bataille. Lisez l'Écriture à ceux qui sont la proie de la tentation. Continuez patiemment vos efforts, jusqu'à ce qu'ils saisissent avec reconnaissance l'espoir de la rédemption par le Christ. Persévérez auprès d'eux, sinon vous ne réussirez jamais. Ils continueront à être les jouets de la tentation. Mais poursuivez vos efforts, sans vous décourager. Cette œuvre n'est pas vaine. Lorsque, en unissant leurs efforts avec le divin, d'aucuns s'efforcent d'atteindre les profondeurs de la misère humaine, Dieu fait reposer sur eux une riche bénédiction. Même s'il en est peu qui acceptent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, leur œuvre n'est pas vaine, car une âme est très précieuse aux yeux de Dieu. Le Christ serait mort pour une seule, afin qu'elle puisse vivre éternellement. Grâce à de fidèles ouvriers du Seigneur, de nombreuses âmes sont arrachées des griffes de Satan. Certains sentent reposer sur leurs épaules le fardeau d'une âme qui se perd pour la ramener au Christ. Gagner une âme sur laquelle Satan a triomphé suscite de la joie parmi les anges. Il en est qui ont détruit en elles-mêmes l'image morale de Dieu. Le filet évangélique ramasse ces pauvres proscrits. Les anges de Dieu coopèrent avec ceux qui sont engagés dans cette œuvre et font l'impossible pour sauver les âmes qui périssent, en leur donnant l'occasion que beaucoup n'ont jamais eue. Il n'y a qu'en Christ que l'on peut les atteindre. Le Sauveur ne cesse de travailler au relèvement de celui qui souffre et de lui enseigner la justice. Ce n'est qu'ainsi que les pécheurs peuvent être tirés des profondeurs de la dégradation. Travailler dans l'amour. Les ouvriers du Seigneur doivent travailler dans l'amour, en nourrissant et en habillant ceux qui ont besoin de secours. C'est ainsi que les proscrits pourront savoir que quelqu'un s'intéresse à leur âme. Le Seigneur m'a montré qu'un grand nombre de ces pauvres rejetés de la société, grâce au ministère des agents humains, collaboreront avec la puissance divine et chercheront à restaurer l'image morale chez d'autres humains pour lesquels le Christ a versé son sang. Ils seront appelés les élus de Dieu et se tiendront tout près de son trône. Le Seigneur s'efforce d'atteindre les plus dépravés. Beaucoup sauront ce que veut dire être conduit au Christ, mais n'auront pas le courage moral de vaincre l'appétit et la passion. Toutefois, les ouvriers du Seigneur ne doivent pas se décourager pour cela, car il est écrit « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. » 1 Timothée 4, verset 1. N'y a-t-il que ceux qui ont été arrachés aux profondeurs de l'abîme du péché qui apostasient ? Cette parole concerne aussi les pasteurs qui ont eu la lumière et la connaissance de la vérité et ne seront pas victorieux. Ils ne peuvent maîtriser leurs appétits et leurs passions ou renoncer à eux-mêmes pour l'amour du Christ. Beaucoup de proscrits, de publicains et de pécheurs saisiront l'espérance qui se présente à eux dans l'Évangile et précéderont dans le royaume des cieux ceux qui ont eu de grandes lumières, mais ont marché dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, placez-vous du côté du Seigneur, soyez fervents et actifs, soyez de courageux collaborateurs du Christ, travaillant avec lui pour chercher et sauver ceux qui se perdent. Ne pas suivre les méthodes de l'armée du salut. Le Seigneur nous a indiqué la façon dont nous devions travailler. En tant que peuple, nous ne devons pas imiter les méthodes de l'armée du salut. Ce n'est pas là l'œuvre qui nous a été confiée. Ce qui ne veut pas dire que nous devions la condamner ou en parler mal. Il y a dans l'armée du salut des âmes précieuses et dévouées. Nous ne pouvons qu'en dire du bien. Il en est qui servent sincèrement le Seigneur. Elles recevront de plus grandes lumières et accepteront toute la vérité. Les officiers de l'armée du salut s'efforcent de sauver les êtres négligés et méprisés. Ne les décourageons pas. Laissons-les faire ce travail selon leur propre méthode. Mais le Seigneur a clairement indiqué l'œuvre que doivent accomplir les adventistes du septième jour. Aider les proscrits à s'engager dans une nouvelle carrière, à mesure que les enfants de Dieu se consacrent à cette œuvre, de relever ceux qui sont tombés, un grand nombre d'hommes et de femmes saisiront la main tendue pour les sauver et se sentiront contraints d'abandonner leur mauvaise voie. Quelques-uns pourront même, par la foi en Christ, occuper des places importantes et assumer des responsabilités dans l'œuvre du salut des âmes. Ils connaissent par expérience les besoins de ceux pour lesquels ils travaillent. Ils savent comment leur venir en aide le plus efficacement et ont connaissance des meilleurs moyens à employer pour sauver une âme qui se perd. Leur cœur déborde de gratitude envers Dieu pour tous ses bienfaits. L'amour les presse et leurs énergies fortifiées sont mises au service d'autres âmes qui périraient sans secours. Avec la Bible pour guide, le Saint-Esprit pour conseiller et consolateur, ils s'engagent dans la carrière qui s'ouvre devant eux. Chaque personne qui vient s'ajouter à l'armée des ouvriers du Seigneur, lorsqu'elle est bien instruite et bien préparée, collabore, avec ceux dont elle a reçu la lumière, à l'œuvre du salut des âmes. C'est ainsi que Dieu est honoré et que la vérité fait son chemin. Chapitre 32. Précautions nécessaires. Les bouges ne doivent pas être idéalisées. des précautions sont nécessaires dans cette dernière œuvre que des mortels entreprendront. Il y a un danger de fasciner les esprits, de telle sorte que des personnes qui sont totalement incapables de s'engager dans l'œuvre de Dieu se croiront désignées par le ciel pour travailler en faveur des proscrits et des dépravés. Si l'on parlait de toutes les expériences, bonnes et mauvaises, on ne mettrait pas autant d'empressement pour ce travail. Beaucoup se lancent dans cette œuvre parce qu'ils aiment ce qui est sensationnel et excitant. Mais s'ils n'apportent pas toutes leurs énergies dans la grande œuvre du salut des âmes, ils révéleront qu'ils ne possèdent pas le véritable esprit missionnaire. Danger en travaillant pour les proscrits. Dans tous ses efforts pour rester vigilant, l'homme a besoin d'être gardé par la puissance divine. Il y a un risque constant de contamination dans l'œuvre en faveur de ceux qui sont tombés et dépravés. Alors pourquoi des hommes et des femmes frôleraient-ils ainsi le danger, n'étant pas préparés à résister à la tentation et n'ayant pas suffisamment de force de caractère pour ce genre de travail ? L'empreinte que reçoit l'esprit de nombreux jeunes gens engagés dans cette prétendue œuvre médicale missionnaire n'est pas du tout celle que le docteur ou ses associés imaginent. Il n'est pas sage de les exposer au piège de Satan. Ce serait les éloigner progressivement de la vie familiale et des influences salutaires. Il faut signaler aux jeunes le danger qu'ils courent. Partout où des hommes et des femmes travaillent en faveur des dégradés, quelqu'un doit se charger de ses graves responsabilités. Sinon, les ouvriers feront bon marché de leur attitude, de leurs paroles et de leurs principes. Beaucoup s'engagent dans cette œuvre avec l'idée qu'ils seront délivrés de leur vie de péché, et lorsque l'occasion se présentera, ils croiront qu'il est normal de prévariquer, d'être malhonnête ou de commettre certains péchés dont ils ont été coupables dans le passé. En conséquence, les ouvriers qui ne vivent pas en communion intime avec Dieu ne deviendront pas meilleurs, mais pires. Ils imiteront les manières de ceux qui vivent ouvertement dans le péché. Ils se joindront aux malfaiteurs en approuvant tout ce qui est mauvais et perdront tout raffinement dans leurs paroles ou leurs manières. Leur crainte de Dieu et l'amour de la justice se confondront avec une sorte de fièvre religieuse inacceptable aux yeux de Dieu. Plus de perdus que de sauvés, il est dangereux de demander à des jeunes gens et des jeunes filles de travailler en faveur des proscrits. On les place en contact avec toutes les formes d'impureté, et Satan profite de cette occasion pour consommer leurs pertes. Il y a ainsi bien plus de perdus que de sauvés. Beaucoup d'efforts consacrés aux réprouvés de la société ont pour résultat la perte de la pureté de ces ouvriers. Ceux qui visitent les maisons de prostitution s'exposent eux-mêmes à de terribles tentations. Ce genre de travail est toujours dangereux. C'est une machination diabolique pour induire les âmes en tentation et les faire succomber à des pratiques luxurieuses. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Plus les jeunes gens et les jeunes filles s'éloignent des lieux corrompus, meilleures et plus sûres seront leurs futures expériences. Les ouvriers missionnaires médicaux doivent être purs, raffinés, ennoblis. Ils doivent se tenir sur la plateforme de l'éternelle vérité. Mais il m'a été montré que la vérité n'est pas apparue sous son vrai jour. Il en résulte que ce qui est fait tend à corrompre les esprits, que les choses sacrées sont mises au rang des choses communes. Préserver la sainteté de l'œuvre, bien des choses m'ont été présentées. Il m'a été montré qu'une œuvre doit être accomplie pour la classe la plus dépravée, mais il faut que ce sujet soit considéré plus sérieusement, de façon à ne pas travailler en vain. Des jeunes gens et des jeunes filles ne doivent pas être exposés au danger, comme cela a été fait dans le passé, en s'occupant des réprouvés. Il faut agir avec une certaine prudence, car il existe des dangers manifestes. L'œuvre de Dieu est sacrée, ne l'oublions pas. De grandes précautions doivent être prises dans le travail en faveur de la basse classe dans les grandes villes, et beaucoup devront s'en abstenir. Chapitre 33. Un appel pour une œuvre bien équilibrée. Avoir une juste perspective. À mesure que l'œuvre avance, des dangers se présentent contre lesquels il faut se prémunir. À mesure que l'on s'engage dans de nouvelles entreprises, on a tendance à faire en sorte qu'elles absorbent tout le reste, et ce qui devrait avoir la première place devient secondaire. Il faut à l'Église une nouvelle puissance, une nouvelle vitalité, mais il y a un grand danger, lorsqu'on s'engage dans une certaine branche de l'œuvre, de dépenser toutes les énergies au lieu d'apporter la vie dans l'Église. Notre principal travail ne doit pas être consacré aux proscrits. Dernièrement, 1899, un grand intérêt a été suscité en faveur des pauvres et des proscrits. Une œuvre importante a été entreprise pour relever les dégradés. En elle-même, c'est une bonne œuvre. Nous devons toujours manifester l'esprit du Christ, faire le même travail que lui pour l'humanité souffrante. Sans conteste, le Seigneur veut qu'une œuvre soit accomplie en faveur des proscrits et que quelques-uns se dévouent pour sauver ces âmes qui se perdent. Cela fait partie de la proclamation du message du troisième ange et des autres vérités bibliques. Mais il y a un danger de mettre chacun à ce travail, d'y accorder trop d'importance. Ce danger, c'est que des hommes concentrent leurs énergies sur cette branche de travail, alors que Dieu les a appelés à une œuvre différente. Notre devoir envers l'humanité est une question sérieuse. Il faut une grande grâce de Dieu pour savoir comment accomplir le plus de bien possible. Tout le monde n'est pas appelé à travailler parmi la basse classe. Le Seigneur n'exige pas de ses ouvriers qu'ils acquièrent une éducation pour s'occuper exclusivement de cette classe. Nous pouvons savoir qu'une œuvre est voulue de Dieu lorsqu'il est manifeste que c'est lui qui la dirige et que des principes sacrés sont à la base de chaque action. Mais Dieu m'a montré qu'il est dangereux de s'occuper des proscrits d'une manière qui provoquerait des mouvements spasmodiques causés par l'émotion. De tels procédés ne donneraient aucun résultat bénéfique. Cela encouragerait certaines personnes à faire un genre de travail qui serait loin de communiquer à l'œuvre une activité harmonieuse. L'invitation évangélique doit être donnée aux riches et aux pauvres, aux grands et aux petits. Nous devons trouver le moyen de proclamer la vérité dans de nouveaux lieux et à toutes les classes. Le Seigneur nous ordonne « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Commencez par aller le long des haies, dit-il, et préparez un groupe qui, uni avec vous, s'engagera dans l'œuvre même que fit le Christ en cherchant à sauver ceux qui étaient perdus. Le Christ a prêché l'évangile aux pauvres, mais il ne confina pas son travail à cette classe de gens. Il s'adressa à tous ceux qui voulaient écouter sa parole, non seulement aux publicains et aux proscrits, mais aux riches et aux pharisiens cultivés, aux juifs nobles, aux centurions et aux gouverneurs romains. J'ai toujours considéré que c'est là le genre de travail qui nous incombe. Nous ne devons pas engager toutes nos forces spirituelles dans l'œuvre en faveur des basses classes et ne plus nous occuper d'autre chose. Il nous faut travailler ailleurs pour amener aux maîtres des âmes qui sont prêtes à entendre la vérité, auxquels on pourra confier des responsabilités et qui emploieront leurs facultés à travailler dans la classe élevée comme dans la plus humble. L'œuvre en faveur des classes déshéritées n'a pas de limite, mais elle ne sera jamais exclusive. Elle fait partie du grand tout. Accordez notre première attention à cette œuvre alors qu'il y a de vastes parties de la vigne du Seigneur ouvertes à la culture et où l'on n'a encore rien fait, c'est commencer par le mauvais bout. Ce que le bras droit est au corps, l'œuvre médicale missionnaire l'est au message du troisième ange. Mais le bras droit ne saurait devenir tout le corps. L'œuvre parmi les proscrits est importante, mais elle ne doit pas être la partie essentielle de notre mission. Nous ne sommes pas appelés à construire des maisons pour les femmes et les bébés abandonnés. Je dois parler clairement de certaines choses que nous devons délaisser. Il ne faut pas que nous ouvrions des maisons pour les femmes et les bébés abandonnés. Il vaut mieux que cette responsabilité repose sur des familles qui s'occuperont de ceux qui pourraient en avoir besoin. Le Seigneur ne nous a donné aucune directive pour ouvrir des maisons afin d'y recevoir des bébés. Bien que cela soit une bonne œuvre, ce n'est pas notre tâche présente. Il faut laisser au monde ce genre de travail. Notre temps et nos moyens doivent être consacrés à une branche différente. Nous devons prêcher le dernier message de miséricorde de la meilleure façon possible pour atteindre ceux qui, dans les églises, intercèdent pour recevoir la lumière. Allez dans les champs prêts pour la moisson. Cette œuvre a accaparé toutes les énergies, mais ceci n'est pas conforme à l'ordre de Dieu. Si cette tâche interminable devait continuer comme par le passé, il faudrait toute la puissance du peuple de Dieu pour la contrebalancer, car l'œuvre qui consiste à préparer un peuple pour subsister au sein des périls des derniers jours ne serait jamais faite. Notre œuvre consiste à revêtir l'armure du chrétien et à livrer un combat offensif. Les ouvriers ne doivent pas être encouragés à travailler dans les bouges et la fange des villes, où ils n'amèneront à la conversion que des gens qu'il faudra surveiller constamment. Tandis que des champs sont mûrs pour la moisson, nous ne devons pas consacrer tout notre temps et notre argent à rassembler ceux qui, par l'assouvissement de leur appétit, se sont habitués à vivre dans le péché. Il en est parmi ceux-là qui seront sauvés. D'aucuns peuvent travailler dans les bas-fonds sans en subir des dommages. Mais il n'est pas prudent de confier à des jeunes gens et à des jeunes filles cette sorte de travail. L'expérience risquerait de nous coûter cher. Ainsi, ceux qui pourraient travailler le long des haies seraient disqualifiés pour n'importe quelle autre œuvre. Certains hommes peuvent être profondément émus en voyant des êtres souffrir des conséquences de leur conduite. Ils peuvent se sentir particulièrement appelés à entrer en contact direct avec cette classe de gens, le Seigneur leur confiant la mission de travailler dans ces endroits de perdition, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre ces proscrits et les mettre sous la garde de l'Église. Mais Dieu n'a pas appelé les adventistes du septième jour à se consacrer spécialement à ce travail. Cela absorberait le temps de nombreux ouvriers ou viderait le trésor. Financé par le monde, non par l'Église, il faut s'occuper des proscrits, mais cette œuvre ne doit pas nous absorber totalement. Personne ne devrait se rendre dans nos églises et insister pour qu'elles financent ce travail. L'argent doit être offert abondamment et il le sera par ceux qui ne sont pas de notre foi. Quant aux églises, qu'elles fassent l'œuvre qui leur est désignée, celle de présenter, le long des haies, la vérité contenue dans les oracles de Dieu. Le Seigneur n'a pas chargé son peuple du fardeau d'une classe endurcie par le péché, de sorte que beaucoup de ceux qui y seraient engagés n'en bénéficieraient pas eux-mêmes, ni n'en feraient bénéficier d'autres. S'il y a des hommes qui peuvent entreprendre ce travail en faveur des plus bas tombés, si Dieu leur demande de s'y consacrer, qu'ils le fassent et trouvent dans le monde les moyens nécessaires. Mais qu'ils ne comptent pas sur l'argent que Dieu a destiné au soutien du message du troisième ange. Les nations attendent la lumière. Certains frères supposent que le Seigneur leur a confié l'œuvre de relever les proscrits qui se sont ruinés eux-mêmes, et continuent à le faire. Ils subsistent en outre grâce au secours que leur fournissent les adventistes du septième jour. Le Seigneur leur dit « Qui vous a confié ce travail ? Il y a des peuples et des nations qui n'ont pas encore reçu la lumière de la vérité pour notre époque. Il faut la leur faire connaître. » Partout où le message est proclamé, des missionnaires doivent se présenter, la Bible à la main. Des âmes doivent se convertir et s'affermir dans la vérité. Des maisons de prière seront construites et l'Église témoignera de la puissance de la vérité. Ses membres feront resplendir leur lumière de la même manière qu'une ville située sur une montagne.